direct en jeu la radio insolite. Quel bonheur de découvrir ou de redécouvrir des gens qui ont du talent. Imaginez, ça fait depuis 2023 que je supporte ce jeune homme qui s'appelle Julien. Bonjour Julien.
Bonjour, merci de te recevoir.
Ouais, et quand je trouve assez fascinant, c'est que moi, je ne l'ai vu que comme un musicien, comme un artiste se produisant sur le Festival of d'Avignon. Et là, je le découvre encore plus. Alors, ce que j'aime bien, c'est... Vous savez que j'aime bien savoir d'où vient, comment dire, le parcours de ces artistes. Et là, je pourrais dire que tu peux accuser sans aucun problème tes parents, Julien, parce que ce sont tes parents qui t'ont fait baigner dans la musique.
Oui, bien sûr. Non, je suis né dans une famille de musiciens, et voire même mes grands-parents d'ailleurs. J'avais une grand-mère prof de violon et son mari était clarinettiste amateur. Ils se sont rencontrés en musique. Et de l'autre côté, mon grand-père n'était pas musicien de métier, mais il chantait à la fin des repas et ça m'a beaucoup impressionné. Il pouvait chanter des heures des chansons des années 30 et pouvait tenir un public captif et passionné par des chansons réalistes. Et je l'ai beaucoup pris en modèle, en fait. Enfin, je veux pas sauter mes parents sur l'impact qu'ils ont eu. Hein. Mes parents sont des grands musiciens, des grands pédagogues, et en effet, ils m'ont permis d'avoir une formation solide et puis un amour de la musique absolument inconditionnel.
D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est quand on va faire des recherches et quand on va en particulier sur ton site internet, j'aime bien parce que tu es présenté comme un compositeur carrément inclassable.
Oui, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, bon, c'est aussi un problème, on va dire, commercial, je sais pas si c'est le terme, mais aujourd'hui, on a tendance à vouloir tout classer absolument, compositeur de musique savante, compositeur de musique légère, professeur, instrumentiste, chanteur. Quand on était à l'époque baroque, là, au début du XVIIIe siècle, on s'embêtait pas avec ces classements-là. Un musicien était un musicien, et donc Jean-Sébastien Bach, loin de moi l'idée de me comparer à Jean-Sébastien Bach, mais Jean-Sébastien Bach était compositeur, ça on le sait, mais il était aussi instrumentiste, il était aussi facteur d'orgue, il était aussi professeur, et il était aussi père de famille. Et tout le monde trouvait ça normal, en fait, de faire tout ça. Donc, moi, j'essaye de faire tout ça, évidemment pas au même niveau que Jean-Sébastien Bach, mais je fais ça modestement, et donc, finalement, c'est difficile à classer, quoi.
Alors, tu passes de la comédie musicale à l'opéra. Alors, ce que j'aime bien, c'est dans ton dernier spectacle, il y a du classique, et puis on se retrouve aussi avec les démons de minuit. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Alors, déjà, ça m'a surpris, parce que quand je t'ai vu, comment dire, sur ton spectacle, une histoire de musique en 81 minutes, moi, je m'attendais, comment dire, à de la musique moderne, entre guillemets. Mais il y a de tout. C'est ça qui est extraordinaire. Et alors, tu désacralises complètement la musique classique.
Oui, je sais pas si elle est sacralisée, mais en tout cas, je avec mon frère Clément, là, quand on fait ce spectacle, où en effet, il y a un peu toutes les musiques des démons de minuit jusqu'à du Forêt ou du Johann Strauss ou du Mozart, c'est que c'est notre culture et c'est notre quotidien. Et je suis persuadé que c'est le quotidien et la culture de beaucoup de gens, finalement. Et dans la même journée, on écoute évidemment les démons de minuit, mais aussi une sonate de Mozart qui passe par-ci ou par-là, et puis, là, dernièrement, au concert du Nouvel An, beaucoup de gens ont écouté les valses de Johann Strauss. C'est de la musique qui fait partie de notre vie. On le mélange sur scène parce que finalement, c'est mélangé dans la vie.
Oui, mais enfin bon, moi, j'aime bien regarder quand même le concert du 1er janvier, là, en direct de Vienne. Mais j'ai pas entendu les bandes minuit, moi, hein, je te le dis franchement.
Non, bien sûr, mais dans la même journée, il est très possible qu'une fois qu'on a coupé la radio ou la télé sur le concert de Vienne, finalement, on s'est mis un bon petit truc des années 80 en préparant le repas du 1er janvier midi. Et ça, on n'a pas été choqué par le fait que dans notre journée, on a entendu à la fois un tube d'il y a 40 ans ou de 50 ans et un morceau classique d'il y a plusieurs centaines d'années, quoi.
Alors, en plus de ça, non seulement tu es inclassable, mais enfin, tu es quelqu'un de très sérieux parce que tu es quand même professeur au conservatoire d'Orléans. Attention, c'est pas n'importe quoi.
Bon, c'est pas n'importe quoi, mais être sur scène, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que je fais des choses comiques tout en étant sérieux. Et puis, quand j'enseigne les principes élémentaires de la musique, que ce soit les formes musicales ou bien la notation ou la manière d'interpréter tel ou tel morceau, je fais ça évidemment très sérieusement, mais aussi avec beaucoup d'humour et de passion, mm-hmm. Parce que je pense que ce sont les deux clés pour que les jeunes et les moins jeunes aient envie de pratiquer au maximum.
En tout cas, il y a un truc qui est génial, c'est quand on va voir tes spectacles, on arrive à la fin, on n'a pas perdu son temps, puis on n'a pas vu le temps passer. C'est ça qui est génial.
C'est gentil, bah, tant mieux. Ouais. Mmh. Bah oui, j'essaye. Je veux pas écouter les gens qui m'expliquent le classique. Je vois beaucoup de spectacles super d'ailleurs, mais des fois le titre est un peu style je pourrais pas citer un titre exact mais style ne croyez pas ce qu'on dit, le classique c'est pas ça, il y a écrit ça, et moi en fait je ne sais pas ce qu'on dit, je m'en fiche, ce que je veux montrer c'est dans l'instant. Ah tiens, écoutons du Jean-Sébastien Bach, et ah c'est formidable, tiens écoutons je sais pas quoi, du Luis Mariano. Ah bah oui, finalement c'est rigolo. Ah écoutons ça. Et en fait, je réfléchis pas forcément à qu'est-ce qu'on attend de ce que c'est que la musique classique ou de la musique légère. Je fais pas ces classements-là. Ouais.
D'accord. Alors là, cette fois-ci, c'est sérieux parce que tu passes sur scène avec ton frère. Sur un spectacle qui s'appelle L'aventure du petit flûtiste de rien du tout, alors que les deux premiers spectacles que tu avais fait, quand même tout le monde écrit des chansons et une histoire de la musique en 80 minutes, c'était un one man show. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer sur scène avec ton frère?
C'est que bon, évidemment avec mon frère on se connaît depuis notre naissance, hein, donc ça fait 50 ans qu'on fait de la musique ensemble. Mmh. Au départ évidemment malgré nous, c'est pas nous qui avons choisi de naître dans la même maison, mais on a tout de suite, on s'est toujours beaucoup apprécié, et puis on a toujours eu le même souci de glisser de la facilité dans les choses qui paraissent peut-être pas faciles, c'est-à-dire quand on a travaillé notre instrument, c'est pas toujours évident de travailler un instrument. Hein. C'est mm-hmm. beaucoup de répétitions, beaucoup d'échecs, et il faut passer par l'échec pour progresser. Et finalement, le fait d'être deux à vivre cette espèce de parcours du combattant, du jeune musicien, ça nous a soudés, et on a assez vite fait des spectacles familiaux rigolos. Mmh. Et donc, entre les spectacles familiaux et monter sur scène, finalement, le pas est facile à faire. Et entre les one-man shows que je propose, que je continue de proposer, d'ailleurs, je retourne à Avignon avec, mais qui ont été écrits finalement après avoir été sur scène. Sur scène, c'était beaucoup d'improvisation, et puis au bout d'un moment, au bout d'une centaine de représentations, le texte se cale. Là, c'est un texte vraiment écrit par un auteur qui s'appelle Eric Herbette. Donc, en effet, le travail est différent parce que là, il a fallu que j'apprenne le texte, et puis que le rythme finalement ne change pas d'une représentation à l'autre. Évidemment, les représentations sont pas toujours les mêmes, mais c'est quand même très calé, très codé. Il y a beaucoup de clowns dans notre spectacle, beaucoup de gags qui sont sur le rythme. Clément est un clown muet, il parle très très peu. Moi, par contre, c'est moi qui fais le récit et. Non, c'était un travail un peu différent, un peu plus de comédien, disons, mais on a pris un plaisir fou à le faire et on continue de se marrer beaucoup. On joue tous les mercredis, et à chaque mercredi, à chaque fois qu'on sait que ça va être à nous de monter, on est comme deux gamins, quoi. On a à nouveau 8 et 10 ans, quoi.
Alors, ce qui est marrant, c'est le spectacle qui est adapté aussi bien pour les petits, à partir de 5 ans. Les grands, ils ont un problème, c'est quelqu'un qui fait 2,09 m ne pourra pas assister au spectacle. Oui. C'est la règle.
En fait, pour tout dire, ma grand-mère a vécu 104 ans. Mmh. Et un jour, elle a fait une plaisanterie en disant « j'ai plus le droit de lire Tintin ». Parce que Tintin, il a écrit, je crois, de 7 à 77 ans. Et donc, elle a eu quand même 30 ans de sa vie quasiment où elle n'avait pas le droit de lire Tintin parce que c'était interdit au plus de 60 ans. Donc, au lieu de mettre un âge, on a décidé que c'était de 5 à 2,08 m pour les petits et les grands. Évidemment, je pense qu'on accepterait quelqu'un qui fait 2,10 m. Hein, oui, en effet, c'est un spectacle pour les petits et les grands. On nous classe souvent en jeune public, mais on n'est pas complètement d'accord avec ça. Parce qu'on peut venir sans enfant à notre spectacle et on rigole tout autant. Même il y a des plaisanteries qui passent complètement au-dessus de la tête des enfants. Et les enfants, ils trouvent leur compte aussi. Donc, je suis assez fier de ça, de faire en sorte que ce soit un spectacle musical et humoristique pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Et qu'on connaisse ou non la musique d'ailleurs. Parce que c'est un moyen pour ceux qui connaissent rien à la musique de découvrir tout le répertoire de musique classique et pas que, comme tu l'as dit, il y a aussi des choses plus actuelles. Mais si on y connaît quelque chose en musique, bah, c'est aussi un moyen de voir que, ah, on peut jouer, la, par exemple, la marche turque en courant autour d'un piano. Voilà, bah, nous, on le fait.
Alors, question très personnelle. Dois-tu accuser ta tendre et douce d'être responsable du fait qu'en plus, tu produis des partitions pour des chœurs ? Chœur d'enfant, chœur d'adulte.
Ma tendre et douce, Marie-Noëlle Martin, est une chef de chœur exceptionnelle. Ça fait 25 ans qu'on se connaît et j'ai été subjugué par sa manière de diriger et d'enseigner le chant choral. Et en effet, je pense que bon, on commençait déjà à me classer comme compositeur de partitions pour chœur d'enfant. Mais le fait de la rencontrer a fait que j'ai prolongé ce travail-là avec grand bonheur. On a la chance de travailler ensemble. Heureusement, pas tout le temps, parce que c'est important d'avoir son petit jardin secret, disons, ou en tout cas personnel. Mais c'est un bonheur de travailler avec elle et on se retrouve souvent sur des projets qui mettent en scène en effet des chœurs d'enfants ou non, de moins en moins d'ailleurs. Désormais, on fait beaucoup de projets où elle se remet à chanter. Et je trouve que c'est toujours, pour tout dire, je l'appelle Madame la Fée. Voilà.
Oh, c'est joliment dit. En tout cas, ce que j'ai trouvé assez surprenant, c'est que sur ton site internet, on trouve des partitions pour.
Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai écrit près de 90 opéras pour enfants et puis une quarantaine d'œuvres ou cinquantaine d'œuvres pour adultes, pour des chœurs, des orchestres. Sur ma chaîne YouTube, on voit un peu tout. Il y a des extraits des spectacles que je propose, mais il y a aussi les pièces symphoniques que j'ai pu faire ou les pièces pour ensemble vocaux. Et ma vraie passion, c'est mettre de la poésie en musique, en fait. C'est les grands textes, les Verlaine, les Baudelaire, les Ronsard, Yourcenar, Peggy. En fait, je suis un grand lecteur de poésie. Je souffre un peu du fait qu'aujourd'hui, la poésie, on en lit peu. Et donc, j'écris beaucoup d'opéras ou de contes musicaux qui permettent de glisser ça et là des grands textes de poètes immenses qu'on a peut-être un peu trop tendance à délaisser. Et j'ai l'impression que la musique permet parfois de rentrer dans le texte. C'est-à-dire que, évidemment, tous ces auteurs n'ont pas besoin de moi pour que leur texte soit formidable. Mais parfois, si on est un peu frileux à rentrer dans la poésie, alors le fait de l'avoir en mélodie, ça permet de rentrer dans le texte. Et je suis assez fier de voir que j'ai réussi à mettre à la lecture, entre guillemets, des quantités de jeunes et moins jeunes qui, après avoir chanté mes pièces, se sont dit « Ah, je crois que je vais me mettre à lire des poèmes. » J'adore.
D'accord. C'est raté pour Tout le monde écrit des chansons, qui s'est terminé le 5 novembre. C'est raté pour Une histoire de la musique en 80 minutes, qui s'est terminé le 18 décembre. Par contre, depuis le 15 octobre, c'est l'aventure du petit flûtiste de Rien du Tout à la Comédie Saint-Michel.
Exactement. À la Comédie Saint-Michel, oui. Oui, c'est un nouveau théâtre qu'on découvre, c'est à côté du Parc du Luxembourg à Paris. Bon, les autres, c'est raté, mais j'essaye de tourner un peu, donc j'ai quelques dates. Il faut suivre mon site si on veut savoir où je joue l'un et l'autre des one-man shows. Mais sur l'aventure de Petit Flûtiste, oui, on joue quasiment tous les mercredis jusqu'en fin février, je crois, à la Comédie Saint-Michel, et puis on jouera pendant les vacances d'avril quasiment tous les jours, tous les après-midi. Et oui, c'est bien, ça dure 50 minutes et ça fait plusieurs représentations où une fois que c'est fini, je me dis non, c'est pas possible, on a dû oublier un truc, et je regarde Clément comme ça, puis qui a l'air de trouver que c'est normal, donc je m'aperçois qu'on n'a rien oublié, mais pour nous, ça passe extrêmement vite. Mmh. Et je suis heureux de savoir que pour le public aussi, finalement.
D'accord. Est-ce qu'on a une chance oui, donc j'allais te demander, est-ce qu'on a une chance de te voir en tournée ? Tu viens de l'expliquer, on peut trouver sur ton site internet tous les éléments là-dessus.
Oui, normalement, si le site est à jour, ou en tout cas sur mes réseaux, etc., je communique assez régulièrement. Et oui, j'essaye de tourner au maximum. D'ailleurs, je fais un appel aux auditeurs, hein, si vous voulez m'inviter, alors là, je serais ravi. C'est une nouvelle carrière, en fait, pour moi. Hein. J'ai commencé cette carrière de comédien, enfin, sur scène, à près de 50 ans. Et après avoir fait presque 30 ans de composition et de professorat au conservatoire, bon, je continue hein, de composer et d'enseigner, bien sûr, parce que ça, je crois que je pourrais jamais arrêter. J'ai trop J'aime trop ça. Mais ouais, cette nouvelle vie, comme ça, ça m'excite beaucoup. Je suis pas contre que ça prenne plus en plus de place dans ma vie.
D'accord. Bah écoute, bonne résolution 2026 en tout cas.
Ouais, c'est ça. Ça, et puis peut-être essayer de maigrir un peu. Voilà, pour tout dire, je suis entièrement transparent. Voilà les deux résolutions. Jouer le plus possible au théâtre et maigrir un peu.
Bah écoute, moi je vais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes. Je vous rappelle l'aventure du petit flûtiste de rien du tout à la Comédie Saint-Michel. Faites-vous plaisir, vous allez passer un bon moment. Et puis si vous avez l'occasion d'aller voir aussi les autres spectacles qu'il a proposés déjà, bah vous vous régalerez, vous ne perdrez pas votre temps. Merci à toi en tout cas.
Merci mille fois, merci beaucoup.